Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
En effet, vos questions sont les bienvenues tout de suite au standard de France Bleu Brésil, à notre spécialiste du jardinage naturel. Vous intervenez bien sûr, chers auditeurs en direct. Tout de suite, on va d'ailleurs dans un instant rejoindre Odile Haroud-Oualek. Philippe Munier, bonjour.
Bonjour Morgan, bonjour à tous.
C'est vrai qu'il va falloir se préparer à ce petit coup de chaud la semaine prochaine. On va dépasser, rendez-vous compte, les 20 degrés la semaine prochaine. Faut se préparer à ça ou pas dans le jardin ?
Oh, psychologiquement, c'est important parce qu'il va faire sortir les tenues d'été, la crème solaire, etc. Donc,
le parasol, il va falloir sortir.
C'est ça, ouais. Il va falloir se tromper entre le parapluie et le parasol. Voilà, ouais. Il y a tout un travail cérébral à faire. Non, ça va être très dur pour les jardiniers. Mais bon, le jardin, lui, par contre, il n'attend que ça. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui ont une serre, il va falloir faire très attention parce que là où c'est le pire parce qu'il fait souvent, quand il fait beau en avril, il fait froid la nuit et chaud le jour. La chair, les petits semis vont geler la nuit ou en tout cas avoir froid et vont crever de chaud la journée. Voilà. Très souvent, on déplore quelques pertes.
Ouais, jeudi prochain, là, pour tous les Bretons du nord au sud, on dépassera largement les 20 degrés et la nuit entre 9 et 11 degrés, vous voyez.
Bon, alors ça va.
Ça passe.
Là, il n'y a pas de souci.
D'accord.
Mais quand c'est beaucoup plus bas, et ça arrive quand même assez fréquemment...
Parce que ça redescendra.
Là, du coup, ça fait des dégâts. Mmh. Donc, mais globalement, de toute façon, on l'attend, autant nous, les jardiniers, que les plantes elles-mêmes, qui en auront elles aussi ras-le-bol d'avoir les pieds dans l'eau.
C'est vrai. Ça va sécher un peu, quoi.
Voilà, ça va sécher, il va faire enfin chaud, ça va enfin pouvoir pousser. Youpi,
on rejoint Odile Haroud-Oualek. Bonjour Odile.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de jardinage. Nous avons une question donc à Philippe Munier, Odile.
Oui, c'était au sujet des émérocales. Mmh. J'avais entendu Philippe dire que la racine pouvait être comestible. Et puis, je regarde sur Internet et je vois qu'en fait, il y a une variété, Buttercup peut-être, dont la fleur serait comestible aussi. Mais je voulais donc des précisions et surtout sur les racines, parce que j'en ai des émérocales dans mon jardin. Mais du coup, je ne sais pas la variété, évidemment, je ne connais pas. Et puis, je voulais savoir si éventuellement on pouvait consommer la racine, comme j'ai cru entendre Philippe dire il y a quelques années.
D'accord.
Voilà.
Les mérocales, Philippe.
Alors en fait, moi, je n'ai pas parlé de la racine, j'ai parlé de la plante entière. Ça va encore plus vite.
La plante entière.
Voilà, la plante entière. Donc, la racine. Donc, je rappelle que les mérocales, c'est une plante qui vient d'Amérique du Nord. Et les colons, quand ils sont arrivés, qu'ils ont commencé à exterminer les Indiens, comme ça ne s'est pas fait très très vite, ils ont eu le temps de voir quand même ce que les Indiens connaissaient bien l'environnement dans lequel ils habitaient et entre autres qui mangeaient cette plante. Donc l'hiver avec les racines qui étaient broyées, ils faisaient une espèce de farine ou des espèces de soupe. Et puis la plante ressort très très tôt au printemps, même pas au printemps, en fin d'hiver. Hein, souvent quand l'hiver est suffisamment doux, on voit les premières pousses d'émérocales pratiquement au mois de janvier. Donc au moment où il n'y avait rien dans le potager. Donc il suffit à ce moment-là, par exemple, de les couvrir de feuilles mortes, de les laisser comme ça pendant 15 jours, 3 semaines. Donc sous les feuilles mortes, ça va faire un peu comme les asperges. Alors elles ne vont pas blanchir, elles vont jaunir. Donc ça va un joli jaune, et puis quand c'est gros comme un doigt, on va dire un pouce, vous les cassez, ça casse comme du verre. Vous pouvez, si c'est un peu gros, les fendre en deux, et soit les manger crus dans une salade, ça a un petit goût, c'est un peu acidulé comme toutes les jeunes pousses, mais c'est sympa, c'est vraiment des goûts qu'on a envie d'avoir parce que c'est bientôt le printemps qui arrive. Et puis on peut aussi les poêler avec un petit peu de beurre, parce qu'on est en Bretagne quand même, faut pas exagérer, un petit peu de beurre, un peu de persil et un peps d'ail, et puis c'est un petit accompagnement d'une petite grillade ou d'un petit steak qui est vraiment tout à fait sympathique. Alors ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, on arrive aux boutons. Donc là, on est arrivé fin juin, début juillet. Les boutons, la veille du jour où il va éclore, et quand on voit les couleurs qui apparaissent, hein, donc le bouton, il est fermé en trois segments, et donc on voit entre chacun des segments la future couleur. Donc ça veut dire que ça va éclore le lendemain matin. Et bien à ce moment-là, vous pouvez le croquer, il est tout à fait délicieux. Et puis le lendemain, si vous ne voulez pas croquer la veille, le lendemain matin, parce que c'est le lys d'un jour, hein, ça éclot le matin et le soir c'est fané. Et bien le matin, vous récoltez vers 10h30, 11h la fleur bien épanouie. Vous enlevez, si vous avez quelqu'un dans votre famille ou vos amis qui est sensible au pollen, vous enlevez le centre, les étamines. Et puis là, vous pouvez farcir avec ce que vous voulez, un fromage blanc salé, des petits mélanges végétaux ou moins végétaux. Moi j'aime bien mettre un petit poisson. haché avec du concombre, vous voyez, puis deux, trois petites épices, une petite goutte de tabasco. Hop, d'abord, c'est super joli. Et en plus, ça a un croquant absolument... Enfin, ça a une texture. Ça croque. Et juste après, ça fond dans la bouche. C'est vraiment quelque chose de je connais que les Mirocals qui fassent ça. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. C'est bon. Et puis voilà. Donc, voilà, toute la plante est comestible. Le moins intéressant étant la racine, à mon sens, hein, d'un point de vue gustatif, parce que j'ai tout essayé. Ouais. C'est encore le moins intéressant de la bande. Mais les parties vertes, oui, c'est très, très intéressant, autant au niveau du goût que ce côté jardinivore ou locavore, mais vraiment vachement local. Hein, quand c'est dans le jardin, c'est bien de se faire plaisir. Oui, tout à fait. Puis ça fait vraiment des décorations d'apéro ou de salade magnifiques. Et en plus, maintenant, il y a des variétés remontantes. Donc avant, c'est vrai que il y avait 3 semaines peut-être de floraison, puis terminé. Maintenant, il y a des variétés remontantes, donc qui remontent peut-être 2 voire 3 fois. Donc ça permet que le même plant puisse donner plusieurs fois. Alors, je déconseille les variétés très complexes, hein, très grosses fleurs. Elles sont pas agréables en bouche, pour le coup. Par contre, les variétés simples, il y a des très jolies choses, il y a des choses magnifiques. Hein. Les variétés simples sont vraiment tout à fait délicieuses.
Et Mirocal à retenir. D'accord. Merci beaucoup, Odile.
Donc, oui, alors c'est au niveau de la variété. Donc, je ne sais pas ce que j'ai chez moi, mais ça n'a pas d'importance, ce sera bon quand même.
Oui, c'est ça. Si c'est une variété simple, il n'y a pas de problème, ça sera bon. Si c'est une variété double, très double, énorme, etc., c'est moins terrible. Pour le coup, en bouche, c'est pas très agréable. C'est pas mauvais, mais c'est pas moins agréable que les variétés simples. Mais tentez le coup, de toute façon, il n'y a pas de souci. Il faut essayer pour savoir ce que ça donne.
Oui, d'accord. Donc, je voyais la variété Buttercup, vous la connaissez sur Internet.
Comme ça, hop, non, mais il y en a tellement de variétés. Hein,
et surtout les appellations aussi.
Il y a un groupe spécialisé sur les Mirocals sur Facebook. On voit tous les jours des petites merveilles apparaître. On s'en prend plein les mirettes régulièrement.
Merci beaucoup, Odile, pour votre question.
Merci beaucoup.
Merci. On va recevoir tout de suite Michel. Bonne journée. Michel est à Perros-Guirec. Il nous rejoint dans cette émission de jardinage. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle parce que j'ai un mimosa qui a bien fleuri là cet hiver, mais qui est en pot, hein, il pousse en pot, sauf que le pot s'est cassé, il faut donc que je le rempote. Hein. Alors je voudrais savoir dans quelles précautions je dois prendre, je suppose que je dois le tailler un petit peu, et puis peut-être dans quel substrat je dois le
repoter, donc. Hein. Tout à fait. Vous allez juste couper la radio après de vous, Michel, pour faciliter l'échange entre nous. Et Philippe, alors, pour ce mimosa rempoté.
Alors déjà, je rappelle quand même qu'un arbre en pot, moi, ça me fait toujours très, très mal. Hein, un arbre, c'est un arbre, et le mettre dans un pot, j'ai un petit peu. Oui, ça me fait mal. Voilà. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Donc maintenant, après, on peut ne pas avoir la place de le mettre, et un mimosa en pleine terre, ça prend tellement de place que je peux comprendre. Hein, mais voilà, c'est la première réaction que j'ai, donc j'en fais pas part à tout le monde. Ensuite, pour que le mimosa aime bien donc des substrats qui soient bien drainants, hein, pour pas qu'il y ait d'eau qui stagne sur la racine, des substrats donc pas trop riches, parce que c'est une plante qui fait partie de cette immense famille qui s'appelle la famille des fabacées, auxquelles appartiennent les petits pois et les haricots. Ça se voit pas tout de suite quand on voit le mimosa, mais après quand on regarde les fruits, on se dit ah si, peut-être, effectivement. Donc c'est des plantes qui sont capables de piéger, avec les bactéries qu'elles ont sur les racines, de piéger l'azote de l'air, donc on n'a pas besoin de mettre d'engrais riches en azote pour un mimosa en pot. Hein, donc on peut mettre un bon terreau, bien terreau universel de bonne qualité, mélanger donc pour un tiers de terreau, un tiers de bonne terre de jardin, un tiers de sable, mettre un bon drainage au fond séparé du support du drainage par un géotextile. Et puis après, donc si on met de l'engrais, il ne faut pas mettre d'un engrais riche en azote, ça ne sert à rien parce que le mimosa ne sait pas l'exploiter correctement. Et dans ce cas-là, il suffit de mettre des compléments, on va dire, simplement à base, par exemple, d'un petit purin de consoude. Ça suffit en général assez bien. Et puis surtout, comme pour toutes les plantes en pot, avoir un arrosage suivi et astucieux. C'est-à-dire que la plante ne doit jamais être détrempée, jamais être desséchée, être toujours juste humide, fraîche.
Oui.
D'accord.
Mais c'est pas la terre de bruyère ne convient pas quand même pour ce genre de plantes là.
Bah, la terre de bruyère, en fait, c'est une terre qui est très très pauvre, hein, qui est juste là, ce qu'on appelle les terres de bruyère. À part les vraies, qui sont un scandale hein, de les trouver, parce que c'est une exploitation de terreaux de forêt, et effectivement, c'est quelque chose de pas durable ou de difficilement renouvelable. Les fausses terres de bruyère, donc les terres dites de bruyère, c'est simplement un mélange de sable et de tourbe. Donc vous mettez, ça n'apporte pas grand chose à la plante, à part de l'acidité, en général, mais de la terre de bruyère pour les plantes qui aiment l'acidité, le reste elles le retrouvent dans le sol. Donc vaut mieux apporter un très bon terreau qui lui de toute façon sera, et tout, pratiquement tous les terreaux sont acides, plus ou moins acides, mais ils le sont tous. Donc un bon terreau universel suffit largement.
Ah oui.
Et je vous dis en mélange avec un tiers de bonne terre de jardin et un tiers de sable grossier pour le drainage.
Dans la jardinerie, on trouve des sacs de terreau universel. Il y a plusieurs catégories. Alors, il y a le sac qui porte la mention toute simple terreau universel. Et puis, il y a celles qui ont des choses en plus. Alors, le prix n'est pas le même. Alors, la question de savoir si le terreau basique, là, dit universel, s'il est quand même de qualité. Je pense qu'il y a une différence quand même. Quand on voit la différence de prix, d'avoir aussi une différence de qualité.
Oui, alors, quelle interprétation sur la composition?
Je conseille régulièrement parce que, dans la plupart des cas, et pourvu que ça dure, le prix du terreau est en adéquation avec sa qualité.
Ah oui.
Hein, donc je conseille déjà, dans la plupart des cas de pas hésiter, c'est pas des prix exorbitants, donc de pas hésiter à mettre un peu plus cher parce qu'effectivement la qualité sera meilleure et surtout le côté rétention d'eau, c'est-à-dire que certains terreaux bas de gamme sont des machins qui bloquent, qui pompent toute l'eau et du coup c'est plus un pot qu'on a, c'est une tourbière. Ouais. Donc c'est pas terrible et du coup à part les plantes carnivores, tout crève dedans. Donc prenez un terreau correct, qui est donc un peu plus cher, qui lui gardera suffisamment d'eau pour la plante, mais laissera écouler l'excédent de façon à ce que les plantes ne pourrissent pas.
D'accord. Ouais. Est-ce qu'il faut que je taille les racines sinon de...
Oui, vous avez intérêt effectivement à faire une petite taille. J'avais oublié effectivement ce côté-là. Une taille des branches, ça c'est évident,
aussi, oui.
Mais et une petite taille légère hein, des racines. À chaque fois qu'on rempote, si on veut pas arriver un beau jour avec des contenants comme les énormes bacs qu'on voit au jardin du Luxembourg, par exemple, à l'orangerie du jardin du Luxembourg, où c'est des bacs de 4 mètres cubes, effectivement, il faut tailler les racines, et même, d'ailleurs, pour les orangers et citronniers au jardin Luxembourg, ils taillent les racines à chaque fois qu'ils les repoussent.
Ah oui.
Voilà, Michel, passez un bon week-end à Perros-Guirec.
Oui, merci à vous.
Merci. Dans un instant, on se retrouvera à l'Opérec avec Francis, et nous retrouverons aussi dans son jardin Martine à Cloire-Carnouette.
Philippe Mounier répond à toutes vos questions. 02 98 53 65 65.
Colore le monde sans feutre, sans épreuve ni bombe. Indolore les murs et coule dans le fleuve la facture en monnaie. Blanche comme le linge, à jamais répand. Tu fars sur les hommes, car le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour il me révèle. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes. Comme le temps est un ami, il colle.
belles couleurs dans votre jardin sur France Bleu Brésil. D'autres questions en direct tout de suite.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Nous sommes Philippe Munier à l'Opérec chez Francis. Bonjour Francis.
Bonjour Monsieur Munier.
Bonjour et bienvenue. Votre question Francis.
Oui, j'ai deux céonotes là, et dont toutes les feuilles ont été grillées par le gel cet hiver.
Ouais.
Non, non seulement les feuilles, mais les petites brindilles, le bout des branches, là, tout a été grillé par, par le gel. Alors je voulais savoir ce que je devais faire maintenant, si le tailler, si je ne suis pas trop tard, ou laisser comme ça.
Alors dans un premier temps, il vaut mieux ne pas tailler. Hein. Ça fait partie des cas où il est urgent de rien faire. Donc laissez tranquillement, peut-être la sève remonter. Donc attendez encore au moins 15 jours, 3 semaines, voir s'il y a du vert qui redémarre. Et quand, si redémarrage il y a, à ce moment-là, il sera temps de tailler pour conserver ce vert et enlever tout ce qui est grillé. Si vous taillez maintenant, vous ne savez pas où tailler, donc vous risquez de faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc attendre encore un petit peu. Et puis malheureusement, souvent, les céanotes qui ont pris le froid cet hiver, ils auront du mal à s'en remettre.
En effet.
D'accord.
Voilà Francis, ce qu'on peut dire. Pour la tendance à respecter, hein, pour la taille. Merci beaucoup Francis.
Oui, d'accord. Bien, au revoir et merci bien.
Merci, bon week-end à l'Opérec.
Bon week-end également, merci.
Nous sommes à Cloire-Carnouët, chez Martine. Bonjour Martine.
Oui, bonjour Morgan, bonjour Philippe.
Bonjour.
Voilà, moi j'ai une petite question, c'est comment j'ai un plant de lavater arbuste et comment il fait 1m50 à peu près de haut et tout le haut de l'arbuste est complètement grillé avec le gel.
D'accord.
Alors est-ce que je dois le tailler parce que en bas ça n'a pas gelé, mais tout le haut est gelé.
Bien, question assez similaire.
Oui, mais alors donc en fait là, pour le coup, autant une céanote se taille juste après la floraison. Donc
d'accord.
Si elle est grillée, on attend que la redémarche de végétation se fasse pour faire du tri. Autant pour une lavater, la taille est une taille de fin d'hiver, début de printemps, c'est-à-dire grosso modo maintenant.
Oui.
Je dis bien grosso modo parce que moi j'attends encore la dernière gelée blanche. Il y en a une que je sens venir là. Je sais pas. Pourquoi
ouais,
j'ai
pour
un pressentiment.
Mois,
ouais, je sais, j'ai un pressentiment terrible.
C'est le soleil qu'il nous faut maintenant.
Oui, je suis d'accord, mais j'ai un mauvais pressentiment quand même, ça n'empêche pas. Je vous en fais part, après j'espère que je me trompe et que je me gaufre. Tant mieux.
Non, mais c'est la prudence,
voilà.
On appelle ça la prudence.
Donc, voilà. Donc effectivement, la lavater, on la taille lorsque les gelées ne sont plus à craindre. En général, c'est la troisième semaine d'avril. Donc on n'en est pas loin, hein, c'est la semaine prochaine, donc on croise les doigts. Et effectivement, on fait parce qu'elle va fleurir sur le bois qui va naître ce printemps, donc on va la tailler assez sévère pour qu'elle refasse du jeune bois et qu'elle refleurisse. Donc on est largement dans le temps de la tailler, mais avec prudence. Voilà.
D'accord, parce que tout le bas, il commence vraiment bien vert, mais tout le haut...
L'avantage, c'est... Quand il y a des parties brûlées comme ça et qu'un autre coup de gel arrive, c'est les parties brûlées qui ramassent le froid et qui protègent la partie du bas. Si vous coupez et qu'il y a un coup de gel qui arrive, c'est les parties du bas qui vont geler. Alors après, ce que vous pouvez aussi faire si vous êtes vraiment très impatient de le tailler, c'est de tailler par exemple ce week-end où il y a faire un temps correct, mais par contre, paillez-le ou protégez-le s'il y a du gel annoncé avec un voile de forçage, de manière
d'accord.
à ce qu'il n'ait pas ce coup-là.
Oui.
Mais voilà, on taille avec prudence.
Avec prudence, d'accord.
Et circonspection.
D'accord, merci Philippe, merci.
Merci beaucoup Martine.
Allez, au revoir Morgan.
Au revoir.
Et Kenavo.
Kenavo, Orvéchal et Cloire Carnouët. Nous serons dans quelques minutes chez Monique à Banalec pour d'autres questions jardinage et chez Jean-Charles à Plomelin.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65. France Bleu.
Quen Bras, Tudou, Prenabo, tout Neve. Le départ de la Reda Adec, c'est le 4 mai.
Cette année, la course pour la langue bretonne part de Quimper, de Zarblassen, Sainte-Corinthine. Au programme,
un cyberspectacle
et un grand fest-noz avec Dremwell, Pascal Lamour ou encore le Bagarre Quimper.
Qui paye France Bleu Brésil et Lavoisé, veulent juste. Et d'ailleurs, il est temps qu'on s'entraîne, il y a encore 1800 km à courir jusqu'à Plouguerneau après ça.
Allez, on y va.
Allez.
Sur les quais à Quimper, sur la Nationale 12 ou en pays de Pontivy, partout en Bretagne, si ça coince sur le réseau routier, on fait la route ensemble. Soyez nos patrouilleurs. Faites circuler l'info. Appelez France Bleu Brésisel au 02 98 53 65 65.
Mercredi sur France Inter, Génération des Proches. Commémorons n'importe quoi.
Pendant toute une soirée, la nouvelle génération d'Inter fête l'esprit des proches. En direct et en public au studio 104 de la Maison de la Radio. Des proches dans le texte avec de nombreux invités, de la musique en live, Charline Van Honecker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice.
Une soirée spéciale à suivre mercredi sur France Inter à partir de 20h.
En partenariat avec la SACEM et la MGEN, la Mutuelle de l'Éducation, de la Recherche et de la Culture.
France Inter, une radio. Radio de Radio France.
France Bleu Brésisel. France Bleu.
Catchy, the doo-wop song sur France Bleu Brésisel, retour dans notre jardin.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite, 02 98 53 65 65.
Vos questions en direct, Monique est à Banalec. Bonjour Monique.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour.
Bon, moi ça rejoint un petit peu les questions qui ont été posées avant.
Ouais.
J'ai un laurier fleuri que j'ai taillé après la floraison parce qu'il prenait un peu trop de proportions. Donc il a grillé. Maintenant, je n'ai plus que des feuilles minables, quoi.
D'accord, d'accord.
Alors, est-ce que je dois continuer à le tailler ou le laisser comme ça?
D'accord.
Alors, en fait, pour le laurier rose, hein, c'est son nom.
Oui.
Je rappelle qu'il n'a rien à voir avec le laurier. Hein, c'est une plante hyper toxique. Hein, faites attention avec le laurier rose. C'est vraiment une méchante, si je puis dire. La réponse, c'est la même que pour l'avater. Mmh. C'est-à-dire que c'est une plante qui va fleurir sur le bois, qui va naître cette année. Donc, il est encore temps, s'il n'y a pas de gelée ou si vous protégez après la taille, il est encore temps de la tailler maintenant sans aucun problème, de façon à retrouver du bois vivant sur lequel redémarrera la plante. Alors si vraiment c'est très 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 sévère comme taille, bah, elle aura peut-être du mal à fleurir cette année. Par contre, d'une manière générale, les lauriers roses aiment bien être taillés, et au contraire ils fleurissent mieux lorsqu'ils sont taillés vu qu'ils fleurissent
sur le bois
de l'année. Voilà. Mais vraiment, si vous voulez absolument le tailler ce week-end parce qu'il fait beau, c'est comme pour tout à l'heure pour la lavater, protégez votre laurier rose des éventuelles gelées tardives qui pourraient peut-être encore arriver. Oui, très les bon sunglasses ne sont toujours pas passées.
Non, ne sont pas passées encore. Hein. Non, c'est au mois de mai. Donc, Bon, ben, je vous remercie.
Merci, Monique. Belle journée à Banalec.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Nous sommes à Plomelin chez Jean-Charles. Bonjour, Jean-Charles.
Oui, bonjour, à vous deux. Voilà, je vous appelle parce que le hasard veut qu'on doit accueillir cet après-midi dans notre jardin des visiteurs pour des visites de jardin organisées par l'ULAMIR et Broglazic. La question est la suivante. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Vous en prie, on va lui faire peur. Je vais aboyer.
Sale bête. Ouf.
Il est parti, merci. Et une question qui va être posée pour la deuxième fois et à laquelle je ne réponds pas de façon bien, bien précise. Et je cale, disons.
Dites-moi, dites-moi.
Voilà la question. Est-ce que le fait d'améliorer, d'incorporer au compost des plantes que l'on qualifie parfois de mauvaises, et comme, je ne sais pas moi, les mauvaises herbes du jardin, tout ça, au lieu de les utiliser, ou les plantes qu'on fait aussi, qu'on utilise parfois aussi pour des projections foliaires, ou pour faire du purin, qu'on soude, etc. Donc, incorporer ces plantes dans le compost a le même effet que si on les utilise autrement. Ah, est-ce question... que j'ai été clair parce que
Non, mais je vous en prie, question précise, là, de l'utilisation de ces plantes que vous avez citées dans le compost.
Oui, est-ce qu'on le mettre dans le compost ça va donner une qualité supérieure au compost, voyez-vous.
En effet. Est-ce qu'on améliore cette qualité de compost
Alors, la réponse va être de Normand, oui et non. Alors, en fait, c'est pas du tout la même chose. Ce qu'on va utiliser, donc on va dire par exemple ortie, consoude, fougère, on va prendre ces trois-là. Ce qu'on va utiliser dans une macération fermentée, vu que c'est le joli nom du purin, ça sent moins mauvais quand on dit macération fermentée, hein, tout de suite. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est...
Mais moi, je vous entends très mal.
Alors, tendez bien l'oreille, ça marche très bien d'ici, mais tendez bien l'oreille dans le combiné, Jean-Charles.
Et sinon, vous pouvez réécouter sur l'ordinateur en mettant le son à fond. Donc, j'ai essayé de parler un peu plus fort, je me suis rapproché du micro. Bon. Voilà. Donc, quand on fait des macérations fermentées, donc on utilise des molécules vivantes, des molécules qui sont en pleine action, et dans la macération, ça provoque aussi la naissance de tout un tas de micro-organismes, et c'est l'ensemble de ces molécules vivantes et de ces micro-organismes qui provoquent l'effet de attendu, en tout cas, sur la plante, hein, que ça soit...
Ou
les protéger contre ceci ou cela. Quand on met les plantes dans le compost, c'est pour qu'elles se dégradent. Donc elles sont complètement dégradées, donc les molécules ne sont plus du tout vivantes. Par contre, les composants de ces molécules se retrouvent dans le compost. Et donc plus une plante a été riche et intéressante en plein de molécules, plus ces composantes vont se retrouver. Donc le compost sera bon. Mais je rappelle quand même, parce que j'y tiens absolument, c'est qu'il n'existe pas de mauvaises herbes. Il n'existe que des bonnes plantes, parfois au mauvais endroit. Les mauvaises herbes n'existent pas. On est d'accord, il y a des plantes sauvages, il y a des plantes cultivées, et il ne faut pas oublier que les plantes sauvages, ce sont celles qui attirent tous les bébêtes de chez nous. C'est elles qui créent la biodiversité, ce n'est pas les plantes cultivées. Hein. Donc on n'oublie pas qu'il faut toujours garder des plantes sauvages dans le jardin si on veut avoir des auxiliaires qui viennent dans le jardin pour nous aider à protéger notre jardin. Donc voilà. Mais donc si on met effectivement des orties, de la consoude et de la fougère dans le compost sera de bonne qualité, mais il ne sera pas meilleur que si on met du chien dedans, de la renouée du Japon ou... qu'est-ce que je pourrais utiliser comme ou du pissenlit,
hein, ou du thé.
Ils n'auront pas tout à fait le même effet, mais ils ne seront pas meilleurs ou plus mauvais.
Que si on utilise pour projeter pour liquide, projeter.
Ça n'a rien à voir comme effet, rien à voir, absolument.
J'ai compris, oui. Eh ben, je vous remercie. Je vais essayer.
Merci, Jean-Charles.
Aussi clair que vous avec les visiteurs.
Oh, je vous en prie.
Bonne journée.
Eh ben, bonne visite.
Ouais, Canavo, bonne visite en effet. À bientôt à Plomelin. Dans un instant, on se retrouvera à Perros-Guirec chez Gilda et à Plestin-les-Grèves chez Bernadette.
Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Quelques milliers d'années auront suffi à l'infecter. Pauvre petite planète souillée de notre humanité. Exploser la charge virale. Et voici que notre hôte entre en phase terminale. À qui la faute ? Où est le mal ? Après tout, c'est la nature. Mais rien n'apprend les 10 suivants. Souhaitons bonne chance à notre terre, à nos enfants. Lorsqu'ils ont fini de la sucer jusqu'à la moelle. Encore combien de générations avant grand nettoyage global? À qui la faute, où est le mal? Restons jusqu'à la fin du carnaval. S'il ne reste qu'un jour avant la fin de l'horizon, abreuvons d'amour les champs de ruines que nous laisserons. Dansons, dansons, en cette fin de civilisation, dansons, ça y est, nous y sommes. Dansons, dansons, en cette fin de civilisation, dansons, dansons. Et les peuples traquent à la nouvelle mutation, et les peuples traquent.
Les matmatas sur France Bleu Brésil à 10h moins le quart, ce sera l'un des événements sportifs à ne pas manquer en direct. Hein. Demain matin sur votre radio, dès 10h, émission spéciale pour la Trobroléone à l'Anilis. Voilà, c'est l'occasion hein, de partager avec vous cet événement de cyclisme en Bretagne.
Besoin d'un conseil jardin? Appelez-nous tout de suite 02 98 53 65 65.
Retour dans le jardin, Philippe Meunier, nous sommes maintenant à Perros-Guirec chez Gilda. Bonjour Gilda et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et merci pour votre émission qui est très agréable.
Merci, merci. On a un peu de friture sur la ligne téléphonique, mais on écoute votre question, Gilda.
Ma question est la suivante. On voit un peu partout dans les jardineries et dans les sur les terrains des municipalités, des arbres qui sont taillés en forme de nuages, etc., qui sont taillés assez sévèrement pour le plaisir des yeux et de l'esthétique. Mais je voulais savoir si, quelque part, ça ne correspond pas à une mutilation ou une douleur pour l'arbre.
Est-ce que forcer ainsi cette forme symétrique quelquefois, hein, Philippe, c'est une école, c'est une école de...
Alors,
c'est vaste débat, là.
En fait, c'est un vaste débat, ouais. Et c'est vrai que de temps en temps, je me pose la même question, exactement la même question.
C'est vrai que c'est donc, très sévère quelquefois les formes. Hein.
Il peut y avoir beaucoup d'esthétique dans ces arbres-là. C'est aussi parfois, et j'en ai parlé très récemment, c'est aussi une manière de rajeunir un arbre qui devient vieux et plutôt que de l'abattre. Le passage par la forme en nuage qui peut durer du coup pas mal d'années après, bah, ça lui donne une deuxième vie, donc quelque part est-ce qu'il vaut mieux pas entre guillemets l'amputer plutôt que de l'abattre.
Là, c'est pour un vieil arbre donc là.
Voilà, je parlais récemment justement d'un cryptomeria, donc un cyprès du Japon qui devenait moche et la personne voulait le transformer en arbre à nuage, et ça peut être un passage très intéressant parce qu'effectivement un cyprès du Japon qui devient vieux, c'est une masse de verdure énorme qui peut être vraiment presque anxiogène dans un jardin. Donc on peut en faire, quelque chose de très léger, très aérien, mais de très artificiel. Ouais. Hein, en plus, faut quand même reconnaître
pour ça. Pour les arbres plus jeunes dans nos communes.
Et puis c'est aussi, c'est aussi une manière, un choix qui doit être assumé pleinement. C'est-à-dire que si on fait des arbres à nuages, ça veut dire qu'on part sur une technique, on va dire japonisante, et il faut que ça s'inclue dans quel quelque chose. Il faut que, ça, que l'ensemble soit harmonieux et soit cohérent. Et on ne va pas mettre un arbre à nuages au milieu d'un jardin à l'anglaise, par exemple.
Hein.
Donc il y a aussi de la cohérence à avoir. Maintenant, c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté un peu systématique. Ça coûte très cher. Donc quand c'est quand je vois ce genre d'arbres dans une commune, je me dis oula, ils ont des sous à la commune parce que ça fait un paquet de jeunes arbres. Hein. Bon, alors après, je vais peut-être je joue l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu plutôt créer un verger urbain plutôt que de mettre un machin comme ça qui coûte très très cher. Voilà, c'est un vaste débat, mais je pense que l'art des jardins, l'art du topiaire, alors il y a le topiaire à la française, mais il y a aussi le topiaire à la japonaise avec les formes taillées en nuages, etc. C'est aussi, ça fait aussi partie de l'histoire du paysage. Ça appartient aussi au patrimoine du jardin. Même si, on peut se poser des questions, mais je pense qu'on peut faire des très jolies choses avec. Il ne faut pas oublier que le jardin, c'est aussi un espace artificiel, quoi qu'on dise, c'est un espace artificiel. Et quelque part, on a aussi le droit d'artificialiser un petit peu les formes.
Question de fond, est-ce que ça fait souffrir le plan ? C'était la question de Gilles.
Forcément, oui. Ouais. Forcément, on contrarie le fonctionnement normal de la plante. Ouais. Forcément, vu qu'on lui l'empêche de faire exactement ce qu'elle ferait normalement. Après, la notion de souffrance, c'est pas facile à retenir chez un végétal, quoique. Hein, mais oui, forcément, de toute façon, on le contrarie. Ça, c'est évident.
Mais il s'adapte en général.
Il fait contre mauvaise fortune, bon cœur. On ne lui laisse pas beaucoup de choix non plus.
Mais question très intéressante. Merci beaucoup, Gilda. Hein. Merci infiniment.
Bonne journée. Merci. Bien enregistré.
Ok. Merci. Bon week-end à Perros-Guirec. Nous sommes à Plestin-les-Grèves chez Bernadette. Bonjour Bernadette.
Oui, bonjour. Savez-vous, j'aurais voulu demander savoir comment soigner et nourrir surtout des framboisiers que j'ai plantés depuis 3-4 ans là, et qui restent petits, qui produisent très peu.
Bah alors, qu'est-ce qu'ils ont les petits framboisiers ?
Alors, le framboisier, c'est une plante de lisière, hein, et les lisières sont toujours des lieux très riches. Donc le framboisier, c'est une plante de terrain riche, c'est une plante assez gourmande, et pour qu'elle les framboisiers d'abord, puis les framboises soient belles, il faut effectivement apporter. Les lisières, c'est donc la lisière forestière en l'occurrence, c'est-à-dire un endroit où il y a beaucoup d'humus forestier. Donc on va apporter des feuilles mortes à l'automne. Maintenant, c'est ce que j'ai fait commencer parce que j'ai une grande framboiserie. Mais donc on passe un bon coup de binette partout pour enlever ce qui aurait pu repousser sous les feuilles mortes. Et on peut apporter un bon paillage de bois au-dessus ou un bon paillage de paille par exemple, par-dessus. De manière à ce que les pieds restent au frais, parce qu'ils aiment bien avoir les pieds au frais, la tête au soleil. Donc si on
la
leur met
soleil, un bon... Autrement dit, j'ai planté près d'un mur, c'est pas bon alors?
Ben ça dépend, si le mur est bien orienté, ça va.
C'est orienté comment là chez vous, Bernadette?
Est-ce qu'ils ont le soleil le matin ou l'après-midi?
Le mur est côté nord presque.
D'accord. Ah ouais, donc ça c'est peut-être pas terrible. Ah. Non, il leur faut vraiment la tête au soleil. Hein.
La tête au soleil, c'est pour ça. Hein.
Ouais. Parce que le pied au côté nord, le pied au frais, c'est bon, mais la tête au soleil, faut qu'il monte plus haut que le mur pour avoir le soleil.
D'accord. C'est ça.
Alors, il faut descendre le mur ou faire monter.
Il leur fait trop d'ombre.
Voilà,
exact.
Il faut les changer de place, c'est encore le plus simple à faire.
D'accord.
Ça peut encore être fait maintenant, d'ailleurs.
Tiens.
Il faut leur mettre du terreau à chaque année, quoi.
Bah du terreau, alors attendez, ce qu'on appelle terreau, c'est si c'est du compost maison, oui, absolument. Si c'est du terreau industriel, non, parce que c'est des tourbières qu'on bousille là aussi. Même si je propose, comme tout à l'heure pour le rempotage du mimosa, du terreau universel, là aussi, quand on est sur un espace en pot, on est sur de l'artificiel, et c'est plus facile d'aller prendre un sac à la jardinerie. Par contre, quand on est dehors dans le jardin, si on a fait son compost, et n'importe quel jardinier devrait faire son compost. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le béaba, quoi. Si on fait pas, si on a un jardin et qu'on fait pas de compost, c'est qu'on marche cul par-dessus tête. À ce moment-là, on prend son compost, qui est forcément un bon compost, parce qu'on n'y a mis que des bonnes choses dedans, vu qu'on ne mange que des bonnes choses à la maison. Et donc, ça fera que du bien aux framboises.
Voilà, Bernadette. Merci infiniment pour votre intervention.
Merci beaucoup. merci, à voir.
Merci, beau week-end à Plestin-les-Grèves. Dans quelques secondes, on se retrouve pour notre agenda vert.
France Bleu.
Stade Bleu Brésil. Julien Balidas.
Lundi, c'est derby Brest-Lorient. Un choc en Ligue 2 entre nos deux équipes bretonnes qui visent toutes les deux la montée. Pour l'occasion, France Bleu Brésil vous fait un très beau cadeau. Vous ne me croyez pas? Écoutez Gauthier Larsonneur, le gardien brestois.
À l'occasion du derby contre le FC Lorient, je vous fais gagner mon maillot. Rendez-vous sur la page Facebook de France Bleu Brésil pour l'emporter.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez, vous commentez le post Facebook et rendez-vous lundi soir dans l'avant-match pour avoir le nom du gagnant.
Stade Bleu Brésil. Le stade brestois. Une question jardin, notre expert y répond tout de suite.
Notre agenda vert tout de suite sur France Bleu Brésil. Nous sommes à Ploubert, près de Lannion, au Festival des Plantes et Jardins du Trégor. C'est tout ce week-end au château de Kergrist, avec plusieurs exposants pépiniéristes, paysagistes, etc. Belle rencontre. Et notez aussi à Ifignac, dans les Côtes d'Armor toujours, la fête des plantes. Demain dimanche, ce sera à l'Hippodrome, donc dès 9h, exposition, vente et échange de plants, donc à Ifignac, pour cette fête des plantes, Philippe.
Oui, puis si on va encore un petit peu plus loin, à l'est, mais toujours en Côtes d'Armor, on pourra participer, si on se dépêche de s'inscrire, au stage de permaculture. C'est au jardin du Beau Soleil, hein, la pâturée chêne à Beau Soleil, c'est à Hénon, donc c'est pas très loin de Lamballe, dans tout ce secteur-là. Et Grégory et Sylvaine ont créé un jardin pédagogique et vivrier en permaculture et accueillent régulièrement des stages. Et quand on ressort de leur stage, en général, on est beaucoup plus, comment dirais-je, pas intelligent, mais beaucoup plus résilient. Ce mot qui est très à la mode, mais on a forcément changé quelque chose dans son fonctionnement.
Ah, c'est super ça, voilà.
Dans le bon sens, évidemment.
Pour la permaculture. Merci infiniment encore pour vos conseils précieux. Merci beaucoup, Philippe.
Oui, puis je rappelle que Jean-Charles, qui nous parlait tout à l'heure, a écrit un très sympa petit bouquin qui s'appelle « Au jardin citoyen » aux éditions Cobbresque, il y a quelques années déjà, mais c'est pas grave, on doit encore pouvoir le trouver, et vous verrez, c'est un bouquin très sympa.
Voilà, qu'on reconnaîtra aussi aux illustrations de Nono, notamment, dans ce livre. Merci Philippe, passez un beau week-end, à bientôt, à lundi.
À lundi, avec plaisir.
À lundi matin, à 9h35, sur France Bleu Brésil.
France Bleu Brésil. France Bleu.